Bonjour et bienvenue à l'écoute du programme en français de Radio Prague. Au sommaire aujourd'hui, cinéma avec un film franco-pakistanais présenté cette semaine au Festival du film de Karlovy Vary. Dans notre rubrique littéraire, nous vous proposerons un portrait de l'écrivain Arnaud Lostek. Et puis, comme tous les 15 jours, nous vous ferons découvrir certaines curiosités ou particularités de la langue tchèque. Le duo de réalisateurs Guillaume Giovannetti et Charles Zendjiji ont présenté au public de Karlovy Vary leur film Nour, récit d'un homme, un Kousra, qui va vouloir sortir de sa communauté et partir en quête de son identité au Pakistan. Nour est le premier long métrage des deux réalisateurs. Il avait été auparavant présenté à Cannes et ils se sont retrouvés devant un public de cinéphiles pour la deuxième fois à Karlovy Vary. Les réalisateurs ont rappelé au micro d'Anna Kubichtel la genèse du film.
Culture sans frontières.
Comment est née l'idée du film? Donc nous, on est allé au Pakistan pour la première fois il y a 10 ans, en 2002, un peu en passant par hasard, parce qu'on était dans la région et on voulait traverser le pays le plus vite possible. Et puis finalement, on s'est rendu compte que c'était très intéressant et que les gens étaient super et que c'était surtout très cinématographique. Donc même cette première fois, on y est resté 3 mois. Et puis ensuite on est régulièrement retourné au Pakistan dans les années qui suivaient, et puis ça nous a semblé assez naturel au bout d'un moment de développer un projet de film là-bas. En parallèle, on faisait des courts-métrages et des documentaires, et puis on s'est dit pourquoi pas faire un long-métrage à force d'avancer.
Donc, ah, sacré défi aussi de faire un premier long-métrage, non, après
sacré défi, ouais. Alors a posteriori, enfin tout le monde nous a dit que ce serait impossible, c'était presque impossible, mais ce qui est important dans la phrase, c'est le presque. Voilà, donc c'était un peu compliqué bien sûr, mais on a commencé à écrire quelque chose avec des éléments qu'on est allé puiser à droite à gauche dans le pays. Et puis ça, c'est, ensuite on a été soutenu par deux sociétés en France. Grâce à ça, on a pu continuer à avancer, et à la fin on est tombé sur Nour, le personnage principal, dans la rue, et on a écrit l'histoire autour de lui.
Alors, vous êtes tombé sur le personnage dans la rue. Comment est-ce qu'on tombe comme ça sur un personnage dans la rue?
Alors, comme il a dit, ça nous a pris vraiment énormément de temps en fait de faire ce film, et on cherchait en fait dans tout le pays le personnage principal, et on n'avait pas trouvé vraiment une personne vraiment convaincante qui allait pouvoir porter ce film sur le dos. Et on était toujours à la recherche, et les meilleurs endroits où tu peux faire ces recherches, c'est les bazars. Et un jour, à la rue, on marchait dans un bazar et il est passé à côté de nous. Et quand tu vois un personnage comme ça passer à côté de toi dans la rue, en tant que réalisateur, t'as pas d'autre choix, tu fais un film sur lui.
Mmh. Voilà. Alors justement, qui est Nour pour les personnes qui n'auraient pas vu le film, pour un petit peu leur dire d'aller le voir?
Alors, Nour, c'est un ancien Kousra. Et Kousra, c'est un terme que nous, on ne veut pas vraiment traduire parce qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent. Les Kousra, c'est une communauté, et on peut aussi le considérer comme une sorte de caste, comme en Inde, et ça peut être des transgenres, ça peut être des transsexuels, et ça peut être que des gens qui se mettent en vêtements de femmes et considèrent ça comme un boulot. Donc c'est très, c'est extrêmement divers, et donc ils ont un rôle très particulier dans la société. C'est que quand il y a des mariages ou bien quand il y a des nouveau-nés dans une famille, les familles, quel que soit leur niveau d'éducation et leur classe sociale, vont inviter des Kousra pour la cérémonie ou pour les célébrations, pour qu'ils puissent donner des bonnes vœux et leurs bonnes prières pour le nouveau-né et le mariage. Et parfois, quand ils viennent à la porte pour juste mendier, il n'y a personne qui peut les refuser parce qu'ils ont aussi peur. Parce qu'avec les bonnes prières, il peut aussi en faire des mauvaises. Et tout le monde a peur des Kousra. Donc tu ne renvoies jamais un Kousra les mains vides.
C'est comme s'ils étaient un peu divins?
Presque. En fait, tout le sous-continent pense que ces gens-là ont des pouvoirs spirituels. Comme ils sont démunis, Dieu les écoute.
Pendant nos recherches, en fait, nous, on cherchait un personnage qui avait une petite ambiguïté masculin-féminin, mais on était surtout concentré sur l'histoire d'un personnage imberbe qui n'arrivait pas à assumer sa masculinité au milieu du pays. Et régulièrement, on a été amené à croiser des Kousra, à passer du temps avec eux, à les observer. Ensuite, quand on a rencontré Nour, il nous a raconté sa particularité. Donc sa particularité à lui, c'est qu'il faisait partie de cette communauté de Kousra à un moment dans sa vie. Et qu'à ce moment-là, quand on l'a rencontrée, il ne voulait plus en faire partie. C'est-à-dire qu'il était passé du côté des transgenres, mais c'était terminé. Il avait eu une histoire d'amour avec l'un d'entre eux, qui ne s'était pas bien terminée. Et lui voulait tirer un trait sur cette période de sa vie et redevenir un homme. Voilà. Et on l'a rencontré juste à ce moment charnière où il essayait de sortir de sa communauté. Il voulait assumer le fait qu'il était un homme et que c'était pas une femme, etc., etc. Donc c'est un petit peu, il nous a raconté son histoire comme quoi il voulait redevenir, entre guillemets, selon les normes de la société, normal.
Justement, qu'est-ce que ça implique sortir de cette communauté, sortir d'une caste au Pakistan et de cette caste en particulier?
C'est extrêmement difficile, donc dans n'importe quelle caste. Donc selon la religion hindoue, on connaît très bien les castes, mais le Pakistan est un pays musulman qui a toujours gardé en fait cette histoire de caste et la tradition. C'est extrêmement difficile parce que en fait c'est une communauté extrêmement fermée avec des règles très très strictes qui aussi s'auto-entretient par rapport à leur échange et leur aide respective. Donc sortir de cette communauté veut dire rester tout seul. Personne ne va vraiment s'occuper de lui. Et il y a aussi le système de maître et élève. Ils appellent ça le gourou et le chela. Et donc les gourous sont censés toujours en fait s'occuper des élèves parce qu'ils les voient aussi comme un futur investissement. Ils vont aussi vieillir un jour et les élèves vont aussi prendre soin d'eux comme ils l'ont fait eux quand eux ils étaient jeunes. Et donc le système est extrêmement complexe et tous ces gens-là ont quand même l'habitude d'une façon ou d'une autre. En plus, ceux qui sont rentrés là-dedans quand ils étaient vraiment très jeunes, pour le cas de nous, il les a rencontrés quand il avait 9 ans, mais il ne faisait pas vraiment partie de la communauté. Et progressivement, donc, il s'est retrouvé vraiment partie de ce groupe-là. Pour quelqu'un comme nous, qui a eu toujours l'habitude de se faire prendre en charge par la communauté, c'est aussi extrêmement difficile de se retrouver seul, en fait, face à une société qui est très très masculine quand même, qui a d'autres règles extrêmement strictes, où être un homme est aussi très très difficile. Donc c'est très déstabilisant et surtout que les gens y restent très très seuls.
Noor, c'est un personnage qui existe, mais vous en faites aussi un personnage de film. Quelle est la part de fiction et de réalité dans votre film?
Noor, le film, c'est notre 8e film, c'est notre premier long métrage, mais avant on avait fait des courts métrages de fiction entre guillemets et des documentaires entre guillemets, sachant que pour nous c'est pratiquement la même chose. On procède toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'on rencontre des personnes dans la vraie vie, dans un pays ou dans un autre, et ensuite on les fait jouer leur propre rôle dans un film qu'on écrit pour eux. Donc à la base de tout ça, c'est une rencontre avec un personnage. Ensuite on passe beaucoup de temps avec lui ou elle, et on essaye de trouver l'espèce de panneau de bouton ou sur quel bouton il faut appuyer pour obtenir tel ou tel sentiment de la part des personnages. C'est toujours très flou quelle est la part de fiction et quelle est la part de réalité dans nos films. Et d'ailleurs on le revendique, certains de nos films sont passés dans des sections de documentaires, dans des festivals de documentaires, et le même film est passé en compétition dans des fictions, dans des sections de fiction dans d'autres festivals ailleurs. Pour ce qui est du film de Noor, tout ce qui concerne la vie passé de nous dont il est question dans le film est véritable. Certaines lignes sont fictionnelles comme certaines situations, mais ce qui est sûr c'est que tous les personnages qui sont dans le film, à l'exception d'un seul, pratiquement tous les personnages jouent leur propre rôle. C'est-à-dire qu'on les prend dans leur environnement naturel, on ne leur donne pas de dialogue, on leur donne pas de position, mais ils se comportent comme s'ils se comportaient dans la vraie vie pendant les prises. Par contre, c'est un film de fiction dans le sens où on fait plusieurs prises jusqu'à obtenir la meilleure.
Le personnage, nous, on va partir, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il va partir de cette communauté. C'est un peu une odyssée pour se trouver soi-même. Est-ce qu'on pourrait dire même que c'est un conte? Parce que je sais qu'il va vers un lac où se trouve, on dit que se trouvent des fées pour un peu trouver son destin.
La question pourrait se poser si on avait vraiment fait en fait un film disons un conte. Mais comme Guillaume l'a très bien dit, nous on travaille avec des non-professionnels en tant qu'acteurs. Pour ce film-là, il faut vraiment dire que les fées existent vraiment au Pakistan. Et du coup, nous avons juste rendu la réalité du pays dans ce film. Il y a une très grande partie de la communauté qui croit vraiment qu'il y a des fées et en fait des créatures divines, voilà, et spirituelles. C'est ce qu'on a rendu dans ce film-là. Donc lui, par rapport à ses croyances-là, il avait aussi une certaine croyance, disons, aux fées, et que nous l'avons un peu poussé dans la fiction pour qu'il puisse aller vers ce lac-là. Or, il aurait très bien pu rester dans sa région et aussi avoir toute une autre carrière.
Donc en fait, en un mot, on a fait un film réaliste sur un pays où les faits existent vraiment.
Nour en arabe, ça veut dire la lumière. Est-ce que justement ce personnage trouve dans sa quête à un moment donné justement la clarté, justement, en tout cas l'amour qu'il cherche, puisque c'est ça en fait qu'il cherche.
En tout cas, il le cherche déjà. C'est l'essentiel de la chose. Non, c'est effectivement une quête vers l'autre, puis surtout vers soi-même, puisque en fait le personnage de Nour dans la vraie vie, dans le film aussi, est assez complexe de par son passé, de par sa propre identité. Qui est-il? Est-il un homme? Est-il une femme? Qu'est-ce qu'il pense lui de lui-même? Parce que même dans certains endroits dans le film, il a l'air malgré tout très féminin, même s'il s'assume comme homme. Donc c'est une quête de soi-même. Après, est-ce qu'il se trouve effectivement? Donc faut aller voir le film.
Si on est en Europe, en Occident, est-ce que le film a été vu au Pakistan? Et si oui, quelles ont été les réactions du public?
Alors, pour le moment, nous avons juste fait une projection pour les acteurs qui ont joué dans le film, parce qu'on voulait quand même avoir... À chaque fois, on fait la même chose. Comme ce n'est pas des vrais acteurs, il faut à chaque fois, en fait, leur montrer la version finale pour avoir leur approbation. C'est-à-dire, est-ce que ça vous va? Donc, pour pouvoir avoir ça, on a montré, en fait, le film à tous les acteurs. Ils sont à peu près une quinzaine. Et donc, ils l'ont vu, tout le monde est ravi. Après, c'est une expérience, bien sûr, pour eux, ils ne s'y attendaient pas. Et après, ils ont aussi attendu pendant 2 ans. Et pour eux, c'était après le tournage, le mois prochain, le mois suivant. Ils avaient aussi attendu, du coup, ils avaient aussi oublié, ils avaient gardé certains souvenirs. Mais donc, pour eux, ils sont, disons, assez satisfaits. Et pour tout ce qui est, en fait, des projections publiques, nous attendons d'abord que, en fait, donc le film puisse faire le tour des festivals. Et puis, on voudrait bien, on serait ravis si on pouvait avoir une projection privée ou publique dans des cinémas au Pakistan.
C'était les réalisateurs Guillaume Giovannetti et Charles Zenjiji au micro d'Anna Kubeshta. Place maintenant à une de vos rubriques préférées, chers auditeurs, consacrée aux particularités de la langue tchèque. Cette fois-ci, Guillaume Narguet vous parlera des papillons dans le ventre.
Le tchèque du bout de la langue, Guillaume Narguet.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem milovníkům češtiny Rádia Praha. Dokážu žít bez tebe, opustím tě tiše, tak proč pořád
cítím motýly v mým břiše. Avoir des papillons dans le ventre.
Mít motýly v břiše.
Sans être tchèque à proprement parler, cette expression, que l'on retrouve également en français et dans bien d'autres langues encore, est néanmoins parfois utilisée par les Tchèques. Car, comme tous les hommes et toutes les femmes de ce monde, les Tchèques, comme le chante si bien Michel Sardou, souffrent eux aussi parfois de la plus belle des maladies, une maladie dont on souffre surtout lorsque l'on en guérit. Cette rubrique, exceptionnellement, son auteur se permet de la dédier à une personne en particulier, une personne qui lui est très chère et qui un jour lui a justement confié qu'elle avait des...
motýly v břiše.
Dans notre dernière émission, nous avions évoqué l'expression tchèque selon laquelle des lunettes permettent de voir la vie en rose. Plus précisément, il s'agit de regarder le monde avec des lunettes roses.
Dívat se na svět růžovými brýlemi.
À cette occasion, nous avions mentionné, entre autres, la célèbre chanson d'Edith Piaf, « La vie en rose », dont le refrain, la môme, chante notamment. Ce cœur qui bat, c'est bien entendu le cœur d'une femme amoureuse. Mais là où certaines, qu'elles soient françaises, tchèques ou autres, ont le cœur qui bat la chamade ou qui s'affole en présence ou à la simple pensée de l'être aimé, d'autres, elles, ont ou ressentent des papillons dans le ventre. Une expression très imagée, une métaphore que l'on retrouve aussi en tchèque avec
« mít, cítit, motýly v břiše ».
Comme dans cette chanson donc de Stania Fritscherova intitulée
« motýly »,
les papillons. Nech mě být
sama sebou. Zatlačím si slzy, co mě dlouho zebou. Dokážu žít bez tebe, opustím tě tiše. Tak proč pořád cítím motýly v mým břiše?
Baby me, baby me, srdce zpět, vždyť znám tě už na spaměť.
Laisse-moi partir, laisse-moi seul, je retiens ces larmes qui me transissent de froid, je peux vivre sans toi, je te quitte sans bruit, alors pourquoi je sens toujours ces papillons dans le ventre? On le sait, le papillon possède un fort symbolisme. Il est le symbole de la métamorphose, de l'évolution, une évolution toutefois bien fragile et éphémère, comme la beauté du papillon qui ne vit généralement que quelques jours ou semaines. On retrouve cette idée d'extrême fragilité et d'éphémère dans cette chanson douloureusement mélancolique du groupe
Mniaga Ashdjorp,
une chanson aussi d'une extrême simplicité intitulée
Motil,
le papillon.
Na stole ve sklepě v tlusté vrstvě prachu ležel motýl, kdysi snad barevný, a zrezivělá plechovka přítomna tamtéž nemohla se do sytosti vysmát tomu motýlovi, tak se mi vzal a okno jsem rozbil tou plechovkou a oprášil motýla v paprsku světla. A on se mi rozpadl v dlaní, a on se mi rozpadl v dlaní.
Sur la table dans la cave, dans une espèce couche de poussière, se trouvait un papillon, autrefois peut-être coloré, et une boîte rouillée, qui se trouvait là, elle aussi, ne pouvait rire tout son soûl de ce papillon. Alors je l'ai prise, et j'ai brisé la fenêtre, et j'ai épousseté le papillon dans le rayon de lumière, et il s'est désagrégé dans ma paume, et il s'est désagrégé dans ma paume. Pour nous remonter un peu le moral, mentionnons cette citation de Josef Hanslick, un poète tchèque, également auteur de livres pour enfants morts très récemment.
Motýl nežárlí na květinu, že se s ní před ním mazlil jiný. Stejně jako květina nevyčítá motýlovi, že zamilovaně poletoval kolem jiných.
Le papillon n'est pas jaloux de la fleur qu'un autre a câlinée avant lui, comme la fleur ne reproche pas au papillon d'avoir volté amoureusement autour d'autres. On retrouve cette idée de l'inconstance, mais dans le sens opposé, puisque le chanteur choisit, lui, la fidélité dans une chanson, elle aussi intitulée
« Motil »
et interprétée par Irji Suchy et Itka Malovtsova.
Zdá se mi, že jsem motil, který si vzal do hlavy, že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a jenom pro něj hodlá žít. Snad řekl jsem ví.
Il me semble que je suis un papillon qui s'est mis en tête que voler de fleur en fleur en fait ne l'amuse pas. Et c'est pourquoi il a jeté son dévolu sur la plus belle des fleurs et prétend ne vivre que pour elle. Nous pourrions achever cette rubrique sur cette note romantique et cette poétique déclaration d'amour. Certes, tout cela serait oublié que avoir des papillons dans le ventre peut aussi servir à désigner le tract, une certaine forme de peur que peuvent ressentir, par exemple, un étudiant avant un examen, un comédien avant d'entrer sur scène ou encore un sportif avant une compétition. Mais la conclusion la plus appropriée pour notre rubrique sera tirée plus prosaïquement du dictionnaire étymologique de la langue tchèque. Une conclusion plus terre-à-terre selon laquelle le mot
« motil »
tirerait son origine du verbe
« motat »
qui signifie tituber, chanceler ou plutôt marcher en vacillant, comme le vol du papillon qui vole en zigzag et ne se lasse pas de faire des courbes et sinueux. On se quitte là-dessus donc. On se retrouve dans 15 jours pour une autre rubrique sinueuse. D'ici là, portez-vous du mieux possible.
Mějte se co nejlíp.
Portez le soleil en vous.
Mějte slunce v duši.
Chaussez vos lunettes roses. Ayez des papillons dans le ventre.
Mějte motýly v břiše.
Salut et à bientôt.
Zatím ahoj. 84 ans de vie ont été donnés à l'écrivain Arnošt Lustig. Cette longue existence ressemble elle-même à un roman. Elle a été pour lui une source intarissable d'inspiration pour son œuvre littéraire et une formation qui lui a appris la sagesse. Václav Lichtre brosse son portrait.
Thank you. rencontre littéraire.
La vie n'est pas ce que nous voulons, mais ce que nous avons, dit Dita Saxova, héroïne d'un des plus célèbres romans d'Arnošt Lustig, jeune femme qui a survécu à l'internement dans un camp de concentration. Et cette phrase résume probablement aussi l'expérience de l'écrivain qui a créé ce personnage. Née à Prague en 1927 dans la famille d'un petit commerçant juif, le petit Arnošt se rendra bientôt compte qu'il est né dans un monde injuste. Exclu de l'école pour des raisons de race, il devient apprenti tailleur. En 1942, il est déporté d'abord dans le ghetto du camp de concentration de Térésine, puis dans les camps d'Auschwitz et de Buchenwald. Il échappe par miracle à cette machinerie de la mort. Vers la fin de la guerre, il se trouve dans le camp de Meuslowitz, près de Buchenwald.
Nous y fabriquions des roquettes anti-chars et des obus à mitraille. Et quand l'armée américaine s'est approchée, on nous a mis dans un train pour nous transporter soit à Dachau, soit à Térésine et pour nous liquider. Nous n'avons pas mangé pendant 6 jours. Notre seul espoir était de fuir. Alors nous nous sommes évadés et nous sommes arrivés à Prague.
Cette évasion est cependant bien dramatique. 3 fois les fugitifs sont repris, 3 fois ils sont condamnés à mort, mais ils réussissent toujours à échapper à leur bourreau jusqu'à s'évader pour de bon. Sauvé miraculeusement et arrivé à Prague, après tous ces horribles avatars, Arnošt, jeune rescapé des camps de la mort, se sent presque invincible. Il assiste allègrement au combat de libération de la capitale tchèque en mai 1945. Après la guerre, Arnošt étudie le journalisme, travaille dans la presse et à la radio. Entre 1948 et 1949, il participe en tant que correspondant à la première guerre israélo-arabe. C'est en Israël qu'il se marie avec Viera Vaislitsova, qui sera la compagne de toute sa vie. Elle lui donnera 2 enfants. Les expériences de la guerre ne protègent pas cependant Arnošt Lustig contre une erreur capitale. Aveuglé par l'espoir de l'égalité raciale et sociale, il adhère au parti communiste et lors d'une réunion publique, il lève la main pour la mort de Milada Horáková, femme qui s'est opposée à l'arbitraire et a été condamnée dans un procès monté de toutes pièces par la justice communiste et ses conseillers soviétiques. Ce n'est que plus tard que l'écrivain se rendra compte des similitudes entre le nazisme et le communisme, système ayant commencé par des idéaux pour aboutir à des assassinats massifs.
Premiers nazistes věřili, že spasí Německo.
Les premiers nazis croyaient sauver l'Allemagne. Les premiers communistes croyaient créer une société juste dans un monde injuste. Leur motif n'était donc pas mauvais, mais au bout, il y avait des camps d'extermination, des régimes totalitaires. En cela, les deux systèmes se ressemblent. Ils diffèrent dans ce qui s'est passé entre le début et la fin. Si j'avais voulu, en tant que garçon juif, adhérer aux jeunesses hitlériennes, ça aurait été impossible. Quand je voulais convaincre les membres de l'organisation communiste que j'étais sincère et que je croyais à leur idéal qui allait dégénérer plus tard, je les ai convaincus.
Déjà dans les années 1950, Arnošt Lustig publie ses premiers recueils de contes, La nuit et l'espoir, et Diamant de la nuit, et il est évident qu'un auteur original est né. Tout ce que j'ai appris d'important sur l'homme, je l'ai appris pendant la guerre, dira-t-il, et il cherchera à partager cette expérience avec ses lecteurs. Les héros de ses livres sont des êtres fragiles et vulnérables, exposés sans défense à l'engrenage de la guerre. Dans ses romans, l'écrivain crée toute une galerie de personnages féminins marqués à jamais par le passé douloureux et qui n'arrivent pas à trouver la force pour vivre. Tel est le cas de Dita Saxova. En revanche, l'héroïne du roman Prière pour Katerina Horovitsova, jeune femme qui perd toute sa famille dans les chambres à gaz, finit par trouver la force de se venger contre ses bourreaux. Les vies tragiques de ces femmes sont un miroir qui a permis à l'écrivain de refléter et d'exprimer par des moyens sobres l'horreur inhumaine de la guerre et de la haine raciale. Après l'occupation de la Tchécoslovaquie en 1968, Arnoš Lustig s'exile avec toute sa famille et après avoir vécu quelque temps en Israël et en Yougoslavie, il s'installe finalement aux États-Unis où il enseigne à l'Université américaine de Washington et poursuit son œuvre littéraire. Ce n'est qu'après la chute du communisme qu'il revient dans son pays pour y passer les dernières années de sa vie. Artiste comblé, lauréat de plusieurs prix, Arnoš Lustig ne se laisse pas leurrer par la gloire littéraire.
Povaha té práce vás vede k pokoře.
La nature de ce travail vous mène à l'humilité. Vous ne pouvez pas atteindre la perfection que vous souhaitez. Chaque artiste, écrivain, peintre, musicien tend à la perfection, mais il ne peut l'atteindre que dans l'imagination, dans le rêve, mais non pas dans la réalité. Dans l'art, la perfection n'est pas possible. On peut être bon, très bon, même excellent, mais vous ne parviendrez pas à la perfection, et vous le savez.
L'écrivain ne se fait pas d'illusions non plus sur la pérennité de la littérature. À son avis, tous les artistes servent leur génération et puis s'en vont lentement dans l'oubli, comme les célèbres romanciers du passé, dont Alois Jirásek.
Il a été tellement apprécié par sa génération, mais de nos jours, quand les enfants sont obligés de le lire à l'école, ils protestent. Et cela nous arrivera aussi, à nous tous. Nous allons servir notre génération, et puis, si nous réussissons vraiment, il en restera peut-être quelque chose dans l'histoire de la littérature. Chaque génération a ses écrivains.
Každý pokolení má svý spisovatele.
Vers la fin de sa vie, Arnoš Lustig, riche de ses expériences, suit d'un œil inquiet la recrudescence de l'extrémisme des mouvements nationalistes et néo-nazis. Il profite de toutes les possibilités pour appeler à la vigilance et mettre en garde contre les extrémismes naissants. Il ne cache pas son mécontentement des réactions des milliers officiels à ces dangers latents.
Česká republika je nádherná republika.
La République tchèque est une très belle république, mais elle a une tare. Ses lois sont inefficaces. Nos législateurs ne réalisent pas que chaque fascisme commence par la parole et se termine par le massacre. Cela se terminera de cette façon. Je suis très pessimiste. Si je pouvais, je dirais à la Chambre des députés, rendez les lois plus sévères et prenez en considération que le fascisme commence par la parole et se termine par l'assassinat de masse.
Malgré ce pessimisme et ses appréhensions, Arnoš Lustig restera jusqu'à la fin de ses jours homme plein d'humour et d'énergie vitale que beaucoup de jeunes pourraient lui envier. L'homme qui a tant de fois échappé à la mort sait apprécier la vie. Il ne se laisse pas dompter même par la maladie qui l'emportera finalement, mais ne lui ôtera pas son humour, son appétit de vivre et son désir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons.
Smysl života je žít, a to pokud možno správně.
Le sens de la vie est de vivre, vivre si possible de façon juste. Je ne suis pas celui qui devrait se référer à la Bible, mais il y a 5 livres de Moïse qui peuvent être résumés par une seule phrase. Le devoir de l'homme est de distinguer le bien et le mal, le juste et l'injuste. Vivre avec cette boussole, c'est déjà le sens de la vie.
Voilà, c'est par cette rubrique littéraire que nous vous avons présenté en rediffusion que s'achève pour aujourd'hui le programme de Radio Prague en langue française. Il vous a été présenté par Magdalena Hrozinková. Merci de votre attention. À demain.